commençons cette émission spéciale en citant l'écrivain Rainer Maria Rilke. Le temps ne passe pas deux fois. Quand il est passé, il ne passe plus. On l'oublie. Et si ensemble, on retenait le temps, qu'on l'empêchait de passer, qu'on le pliait par petits bouts pour le mettre dans la poche, ou au contraire, qu'on le dépliait comme une grande toile pour ne jamais oublier qu'il nous traverse en tout temps et en tout lieu. Plier le temps, c'est le thème de l'exposition du duo d'artistes Bounour et Genevaux qui se déroule et se déplie du 18 avril au 21 juin à la chapelle des pénitents d'Agnan et qui concentre toutes les particularités de l'art du pli au-delà de nos perceptions. Julie Coupé, coordinatrice du service culture et communication d'Agnan, nous ouvre les portes de la chapelle à la rencontre de ses artistes.
Oui, alors bonjour à tous. Eh bien, la mairie d'Agnan est très, très heureuse d'accueillir Chloé Genevaux et Guillaume Bounour pour leur exposition faite sur mesure dans la chapelle des pénitents. C'est une exposition qui démarre cette semaine, donc samedi 18 avril. L'inauguration se fait à 18h30, samedi, donc vous êtes tous invités au vernissage. La chapelle des pénitents sera ouverte du mercredi au dimanche, du mercredi au samedi l'après-midi et le dimanche toute la journée avec la présence des artistes. L'exposition durera jusqu'au 21 juin. Ça promet d'être très intéressant, c'est inédit, donc on est très heureux de pouvoir offrir cette exposition à tous ceux qui voudront bien venir.
Nous sommes Bounour et Genevaux, donc un duo d'artistes, et nous travaillons autour d'un geste très simple mais fondamental pour nous, le pli. Et à partir de ce geste, nous explorons la manière dont une forme, une image, une géométrie peuvent se transformer et créer quelque chose qui est voilà, une réplication, une répétition, une transformation dans l'espace et dans le temps. On a intitulé cette exposition « Plier le temps ». C'est conçu comme une traversée dans la chapelle, une série d'œuvres qui se répondent les unes aux autres avec des images qui apparaissent et disparaissent, se font de plus en plus immatérielles. Donc on a travaillé sur l'idée que l'exposition n'est pas seulement là pour voir, mais pour vivre une expérience.
Plier le temps, c'est considérer que le réel n'est pas fixe. Comme une feuille que l'on plie, il peut se superposer, se dédoubler, révéler d'autres couches. Et l'art devient alors un moyen de rendre ces couches sensibles. Le pli, c'est un geste universel, enfantin et très complexe. C'est un outil qui permet de transformer une image pour la détruire. On ne remplace pas, on révèle autrement. Et c'est ce qui se passe, qui est à l'œuvre dans cet espace. L'exposition qui épouse la géométrie et l'architecture vient évoquer un fleuve, une rivière, des couches qu'on traverse pour découvrir que cette réalité du Templier, au-delà des théories mathématiques, est quelque chose qui se joue à un niveau archétypal, au moment où les images vont se dissoudre, jusqu'au moment où on se rend compte que l'image elle-même n'est qu'un opérateur au sein d'un plissement. Alors ça, c'est l'idée. Ensuite, Chloé peut-être peut nous parler de ce qui est à l'œuvre derrière tout ce travail qui s'est fait en résidence pendant des mois avec différents matériaux, médias, pour créer cette installation qui est non pas simplement une succession d'œuvres, mais une œuvre à part entière installée dans la totalité de l'espace et qui a impliqué finalement une échelle particulière, une réflexion sur le pli avec les drapés, la manière dont tombent les choses et les portes du temps qui sont représentées par une madone maison qui est une sorte d'entité qui multidimensionnelle à travers laquelle on découvre une personne mais qui peut être nous-mêmes puisque dans le reflet on se voit aussi avec des surfaces irisées, changeantes et des images en halftone qui apparaissent et disparaissent selon le point de vue de l'observateur. Et finalement, c'est cette entrée très narrative qui nous permet de tout doucement glisser de l'archétype vers des réalités plus abstraites qui sont ce qu'il y a derrière cette notion de plier le temps dans notre interprétation artistique ici.
Et quand on nous a invités à venir travailler ici sur place à la chapelle, on s'est dit que c'était pour nous une occasion de créer une œuvre globale, finalement un ensemble d'œuvres nouvelles spécifiquement pour le lieu. Et pour nous, cette chapelle, c'était avant tout un lieu de passage, de transformation. Donc on a conçu finalement ce parcours d'exposition comme différentes étapes depuis l'entrée de la chapelle, où on a des éléments qui nous font comprendre un peu les prémices de notre travail, des petits papiers pliés, des choses qui sont pliées coupes presque enfantins, vers finalement l'abside dans laquelle on découvre des plus petits formats qui sont accrochés au mur et qui sont des images de ce qu'on a appelé les portes du temps. Mais c'est vraiment un premier travail qui est entre figuration et abstraction, dans lequel on a des images qui apparaissent et disparaissent, qui sont en fait imprimées avec des points, donc selon la distance à laquelle on est, la réflexion de la lumière sur cette surface qui est à la fois miroitante et colorée, on a une perception d'une image qui est changeante. Et pour nous, c'est un peu comme quand on est nous en tant qu'observateur du monde. On voit les choses de notre point de vue, mais finalement, si on était tout petit ou si on voyait les choses de très loin, qu'est-ce que serait le réel ? C'est la question qu'on se pose à travers notre outil qui est le pli, et qui, finalement, on s'en rend compte de plus en plus au fil des années. C'est un média et un outil même philosophique très intéressant pour explorer différentes dimensions du réel. Et là, on s'est attaché plus particulièrement à la notion de temps, parce que le temps, c'est plier aussi des couches et c'est en relation avec l'espace. Finalement, il y a plein de théories du temps. On a mis dans l'entrée une petite explication des choses qui nous ont inspiré sur l'Eiffel théorie. C'est lié aussi à la physique quantique, c'est des théories liées à qu'est-ce que le temps, en fait. On se repose aujourd'hui avec les nouveaux outils, qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que l'espace-temps. Et finalement, on se rend compte qu'il n'est peut-être pas si linéaire que ça, que il y a des éléments issus de la courbure de l'espace, que peut-être qu'il se replie, que le passé peut être modifié par le présent. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui se pose actuellement et qui nous inspire par rapport à nous, qui font écho à notre pratique du pli finalement.
Oui, c'est exactement ça. C'est, en fait, on peut imaginer le temps comme une étoffe qui serait repliée, et en fait c'est ça qui crée ces proximités en fait dans l'espace-temps, qui seraient comme les motifs dessinés sur une même étoffe et qui d'un coup se rapprocheraient. Et c'est exactement ça qui est à l'œuvre dans l'expo. C'est un travail qui a commencé en 2023, où on travaillait sur ce qu'on appelait le réplico. Parce que répliquer, ça vient du pli, comme multiplication vient du pli. Et donc, on s'est rendu compte que ce motif, à travers un prisme ou sur un miroir, pouvait se refléter, se dupliquer dans un espace-temps qui est celui de l'œuvre. Et donc, dans cette expo, on va retrouver des motifs qui sont des motifs de pli. Donc, en fait, intuitivement, on va reconnaître l'opération de symétrie et ce qui s'est passé à l'œuvre. Donc, en fait, un acte du temps, parce qu'on va se reprojeter dans des états différents de la matière. Et du coup, on se rend compte que ce pli, il est caché dans les formes. Et ces formes nous évoquent les formes du monde, les formes du vivant et les choses les plus archétypales de notre monde. Donc en fait, à travers ça, on a voulu montrer une traversée dans le temps d'une vie, le temps d'une exposition, qui peut être aussi vu comme le passage de la vie à la mort. Et c'est vrai qu'un lieu patrimonial avec tant d'histoires, effectivement, nous amène aussi à des projections au-delà. Et aussi, bien sûr, parce qu'il y a aussi le thème de l'héros, le fleuve d'or et du pont du diable, qui peut être vu aussi comme un passage ou peut-être une porte spatio-temporelle. Mais ça, on n'en est pas sûr, il faut vérifier. Mais plus vraisemblablement, ce baigneur qu'on aperçoit au fond de la nef, eh bien, il est là pour nous rappeler que derrière les images, il y a des passages. Et ces passages nous emmènent dans les portes du temps, qui sont certainement des choses bien plus abstraites que ce qu'on peut l'imaginer dans les films de science-fiction. On n'a pas la voiture qui traverse l'espace et le temps. Elle n'est pas inventée, en tout cas. Mais Ça nous amène à comprendre que ces portes du temps, elles sont aussi en nous, dans les histoires qu'on se raconte. C'est pour ça aussi qu'à l'entrée, il y a des fragments de journaux qu'on a pliés, qu'on a découpés, qu'on a recollés sur des formes pliées, qu'on a fait exploser dans l'espace, un espace-temps qui est conditionné par le pli.
On entre dans l'exposition par l'abside, on arrive au bout de la nef avec l'œuvre peinture figurative qui représente ce baigneur en symétrie où finalement on le voit flotter sur le ventre, sur le dos puis sur le ventre. Et pour nous c'est l'axe de cette nef centrale qui représente un peu comme dans les idées une rivière et le traverser entre la rive gauche et la rive droite, peut-être la vie et la mort. Et d'ailleurs c'est intéressant puisque sans le savoir, on a accroché cette œuvre. L'autre jour, le régisseur Lumière nous a dit « Ah mais c'était l'endroit où pendant la dernière guerre, les Allemands ont fusillé les résistants. » Donc c'était juste au moment où on accrochait là, ça nous a quand même fait un choc. Mais finalement, il y a quelque chose qui fait écho à cette histoire aussi.
Et pas seulement, parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'on est dans une rivière. Donc en fait, tous ces grands voiles qui sont très hauts, très grands, mais le lieu est tellement grand qu'on n'en a pas l'impression, toutes ces pièces peintes représentent aussi différents états de l'eau de la rivière et de cette contemplation qu'on peut avoir quand on est seul au bord de la rivière. Et finalement, on part d'une image figurative qui est un peu la dernière et qui nous amène vers juste les contours de cette image, une réalité abstraite qui se dissout dans des formats qui ont vraiment été pensés à l'échelle du lieu, finalement. Et en résonance avec les motifs traditionnels de l'architecture qui finalement rend cette installation, cette proposition un peu médiévale. On a pensé aux oriflammes, donc c'est des grandes tentures et du coup on a métamorphosé l'espace de cette architecture pour l'épurer, puisqu'avant si on a les chapelles latérales et les absides, elles sont complètement masquées par ces grands formats. Et au fond c'est pareil, on a voulu faire cette construction en métal très très légère comme une installation, une expérience immersive, et ça prend la forme d'une grande maison. Et mine de rien, ça a été quand même compliqué. On a monté ça tous les deux avec Chloé et ça a été, je vous passe les détails, mais elle fait quand même 5 mètres de haut et c'est ce qu'il fallait à minima dans un lieu aussi grand pour que ça se tienne un petit peu, vous voyez. Et l'échelle du lieu nous a confrontés directement à se dire non, c'est pas une exposition classique, on va pas mettre des œuvres. On a fait d'assez grandes pièces jusqu'à présent. Mais là, on rentre dans le registre d'œuvres qui sont vraiment en lien avec un lieu qui a un très grand volume. Et c'était, à notre avis, le seul moyen, finalement, d'accrocher de quelque chose dans ce lieu. C'était vraiment finalement faire écho à l'architecture et à l'espace pour insérer une œuvre qui serait plutôt comme une expérience globale où on va prendre les gens par la main depuis l'entrée, leur raconter une histoire qui est tissée. Il y a des papiers qui vont être cachés dans les murs, il y a des choses à déplier, à comprendre, mais il n'y a rien à comprendre, il faut juste se laisser traverser. Toutes les histoires sont fausses. Il faut se laisser aller dans l'abstraction même des idées et se dire il n'y a rien à comprendre. Donc il faut venir par contre, mais il n'y a rien à comprendre.
Nous, notre première intention et attention envers le visiteur, c'est toujours qu'il y ait d'abord une expérience personnelle. Et voilà, moi personnellement, j'aime bien aussi, quand je vois une œuvre, d'abord être touchée et être seule avec mon ressenti. Et après, en effet, pourquoi pas aller plus loin et se poser la question, qu'est-ce que le pli, qu'est-ce que le temps? Mais dans un sens, c'est pas forcément nécessaire.
Des plis. Déplie le temps qui passe. Laisse la peau se plisser. Ne laisse pas ton histoire se lisser. Laissez place à la peau qui se plie pour raconter.
découvrir des sillons qui laissent des traces et qui oublient en chemin quelques souvenirs. Des plis. C'est la vie qui se dessine et qui laisse nos visages et nos corps marqués par le temps qui trace. Comme un tatouage naturel de ce qu'est notre identité. Après tout, se plier de rire n'est-il pas le plus beau des souvenirs ?
Peut-être que nous, on a un caractère peut-être trop uniméanditionnel du temps et de cette vision. Donc c'est aussi briser ce regard-là, c'est aussi aller plus loin. C'est comment on va aussi casser cette dimension unidimensionnelle de ce qu'on voit tous les jours autour de nous ou...
Oui, c'est ça. Effectivement, si on pousse plus loin, ça nous amène à ce qu'on pourrait... en fait, c'est une parabole, mais on pourrait rapprocher ça du relativisme culturel. C'est-à-dire qu'en fait... ce temps qui peut être le temps d'une vie ou le temps historique qu'on considère tous depuis un prisme qui est comme un écran de projection. Alors est-ce que cet écran est plié ou pas ? Mais c'est ce prisme sur lequel on projette des idées, des notions très personnelles qui constituent notre vision du monde. Mais les scientifiques, mais les mystiques aussi montrent que il y a d'autres dimensions dans l'existence qui peuvent se franchir comme des seuils. Et c'est un peu là où le pli vient comme une parabole. Et on retrouve ça dans de nombreuses traditions. Alors là, puisqu'on est dans un lieu saint, on peut penser à la Kabbale, avec la Kabbale juive, avec la notion de Tzimtzum, qui est l'idée que pour que le monde puisse paraître l'essence divine, c'est-à-dire le truc le plus global qu'on puisse imaginer, doit se contracter pour que ombre et lumière puissent paraître. Et à partir de là, du zéro à l'infini, on passe au 1, au 2, au 3, et les mondes apparaissent. On retrouve des idées similaires chez les soufis, avec le miroir du cœur qu'il faut polir pour avoir une vision nette de la réalité. Donc on peut imaginer que si ce miroir est tout plié, il faut un peu le développer pour qu'il fasse un beau cœur. Mais finalement, cette parabole du pli, au-delà de la mystique, elle a été aussi reprise par certains philosophes, et on voit que elle peut nous conduire, par extrapolation, comme tu le disais, à comprendre que il peut y avoir plusieurs mondes, plusieurs dimensions, et que effectivement, la vision unidimensionnelle, en tout cas bidimensionnelle, c'est un peu comme quand on regarde une photo ou une image en coupe. Donc en fait, ça nous parle aussi du virtuel et de ce monde virtuel dans lequel on est. Et pour se rendre compte qu'il y a plusieurs fenêtres, plusieurs portes, et que finalement, il suffit de faire un pas de côté pour ajouter des dimensions à la perception d'une chose dans le monde réel ou dans les idées, c'est un peu pareil.
Et là, vous explorez autant le côté divin que le côté scientifique à travers vos créations.
Non, ça nous inspire, c'est plutôt des recherches à la marge pour comprendre et se laisser guider dans ce qu'on fait. Ce qu'on explore véritablement, c'est une recherche plastique liée au pli, qui part d'une gestuelle, mais pas que, qui considère qu'en fait le pli est l'origine d'apparition, de phénomènes à l'œuvre, autant dans le physique que dans les idées. Pour le rapprocher du domaine plastique, on pourrait dire qu'on l'a découvert récemment, parce qu'au début, on était très guidé par le processus, qui est toujours très actif. Mais à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais y compris une image imprimée, alors on s'est amusé à plier aussi des images pour en trouver le sens par la géométrie du pli, mais une image qui aurait été une réplique d'une chose, ou une image en vidéo, où on a fait des travaux sur les reflets des paysages, mais aussi les reflets des paysages dans des images 3D virtuelles miroirs du pli, on s'est rendu compte que finalement, le plissement n'était pas qu'un procédé, un opérateur physique d'une chose qui aurait été pliée, alors le pli en mouvement, le pli statique, les différents états du pli, ok, mais au-delà de ça, on l'a même utilisé parfois comme opérateur dans la peinture, oui, il y a une réalité physique du pli, mais au-delà de ça, il y a une réalité immatérielle qui nous renseigne ontologiquement sur beaucoup de nos états d'âme, nos états d'être. On peut voir le pli dans la division cellulaire, dans la manière dont se forment les montagnes. Donc c'est un sujet très vaste et passionnant, et un sujet en soi, autant qu'une méthode plastique. Et on a développé un vocabulaire personnel qui est nourri par des influences, mais je ne crois pas que ce soit spécialement au fond des influences spirituelles, mathématiques, philosophiques. Toutes ces choses-là, on les connaît. Mais ça ne peut pas vraiment nous inspirer directement, puisqu'en fait, on est dans une recherche fondamentalement abstraite, qui est plutôt un état plus proche de la méditation où on essaye de, justement de tout oublier. Et ces choses-là, elles reviennent après quand on dit tiens, ben, peut-être que ça me fait penser à ça ou ça me touche pour telle et telle raison. Mais l'aspect divin, il est secondaire. Le divin, il ne faut pas en parler. Il faut se laisser traverser comme l'exposition, quoi.
Oui, sur ce côté aussi méditatif, vous en parliez tout à l'heure, de se retrouver avec soi-même en tête-à-tête avec l'œuvre, c'est quelque chose aussi qui vous parle dans votre manière de créer ?
Oui, je crois que c'est essentiel, c'est peut-être ce que j'ai toujours finalement cherché à travers l'art, c'est cet instant où le temps est comme suspendu, en fait, c'est aussi ça peut-être, plier le temps dans un sens, c'est le moment où on crée, on est seul avec... le geste avec soi-même, avec cet espace qui laisse venir quelque chose d'inattendu finalement de l'intérieur, comme disait Guillaume, qu'on ne comprend pas forcément au moment de faire, et après avec l'intellect on analyse plein de choses et on peut en dire plein de choses, mais au départ c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti et d'un instant qui est précieux finalement, c'est une manière d'arrêter le temps un peu.
Et comment est-ce qu'on passe de plier une feuille à quatre à faire une toile monumentale dans une chapelle ?
Ah oui, c'est une bonne question. Ah, y a eu beaucoup d'itérations pour passer d'une simple feuille, c'est comme la feuille de papier. Alors c'est vrai que derrière, au départ, il y a eu tout un parcours. Avec l'étude des modèles complexes de formes pliées, de manière paramétrique. Il y a eu le développement de méthodologies pour créer des très grandes pièces pliées avec des tôles et toute une gestuelle qui permettait de transformer ces matériaux en de grands pliages avec toute une cinématique de couple qui était un peu comme une danse. Et puis on a fait des formats de plus en plus grands. On a eu là effectivement un enjeu entre eux. On a hésité d'ailleurs, on aurait pu aussi travailler. Il y a des matériaux qui prennent très bien le pli et qui peuvent être travaillés en très grand format. Et on est plutôt parti là sur une remise à plat du pli. Et je dirais que c'est encore un nouveau détour que prend notre travail, c'est que on a compris qu'il existait toujours un pli à cet état. Cet état qui a encore une plus grande simplicité. Alors simplicité, ça vient de qui n'a qu'un pli. Là, ce pli-là, on l'a encore presque enlevé, mais il subsiste, hein, parce que dans le mode opératoire, les grandes toiles, on les a pliées pour les transporter, donc il reste des traces de ces plis. Mais ils ont presque disparu et aussi on a choisi, donc c'est encore une nouvelle famille de réplicaux, on a choisi un pli qui est très orthogonal, qui crée, en fait dans l'esprit humain, on reproduit le geste. Mais quand on a des plis avec plusieurs degrés de liberté et des diagonales, enfin je vous passe les détails, eh bien il est plus difficile pour l'observateur de retrouver la dynamique cachée du pli. Et là on a voulu des plis dans cette famille de formes et cette méthodologie-là de cette série. On les a simplifiés aussi par rapport à l'échelle du lieu et aussi pour qu'il y ait un passage qui se fasse dans l'esprit entre cette image pliée avec le baigneur où on peut dire tiens je vois encore, je peux imaginer la feuille qui se plie. Et le fait d'avoir utilisé ces plis qui sont relativement simples et qui ont une formulation qui est orthogonale, donc en fait qui ne casse pas nos points de référence. Ça, c'est mon analyse, mais je pense que c'est lié à ça. On a une révélation qui est moins prismatique, en fait, de cet élément plié et qui est plus facile pour l'observateur à s'identifier. Elle est plus archétypale et donc c'est un peu comme dans la BD, en fait. La théorie, c'est qu'on peut se reconnaître facilement dans une forme quand elle est très simple. Vous voyez ? Et je crois que c'est important parce que on peut y voir des êtres, des formes. Enfin, chacun peut voir ce qu'il veut. C'est un peu comme quand on regarde les nuages ou la surface de l'eau. Et c'est à ce moment-là où, quelque part, il y a quelque chose en nous qui se reconnaît, qui vibre. Et c'est ça qui fait qu'on est humain. C'est cette parenté avec les choses, les formes. Alors je dis pas qu'on les a déjà vécues, parce que sinon vous allez me taxer de mystique en plus avec cette histoire de porte du temps. Mais il y a une histoire d'énergie qui est toujours là, qui revient, qui est un peu toujours la même d'époque à époque, de génération à génération, même si les formes sont différentes. C'est un peu comme dans la vie, vous voyez, dans l'écomorphisme, on voit qu'il y a plein de lézards, mais ils sont tous différents, et en même temps ils sont tous un peu pareils. Et les formes de la nature sont issues de la morphogénèse. Et on voit que ces processus sont très simples, en fait. Ils sont l'expression des forces à l'œuvre. Théodore Schwenk en parle très bien dans son livre sur la morphogénèse. On voit que d'un vortex dans l'eau, on va trouver une méduse, on va trouver dans les êtres simples, ou même les êtres unicellulaires, tout ça, on voit qu'il y a des formulations du vivant qui sont très proches de ces papiers découpés. C'est un peu l'enfance de l'art. C'est pas pour rien que Matisse, dans son vieillage, est revenu au découpage. Dans le découpage, en fait, on est dans une manière de travailler la matière artistique qui est très différente de la manière que quand on tient un crayon ou un pinceau, c'est autre chose. Et c'est intéressant parce que c'est une entrée où on n'a pas forcément les codes. Et c'est toujours pareil. En fait, quand on fait un truc, c'est la chance du débutant. On fait un truc pour la première fois qu'on ne l'a jamais fait. C'est un peu magique. Et le drame des adultes, c'est que quand on arrive à un certain âge et qu'on a déjà un peu tout fait, c'est rare d'être surpris. Et avec le pli, on est re-rentré dans cette dimension un peu enfantine où on se laisse porter par la gestuelle. Même si, parfois, on est obligé de se re-appuyer sur nos connaissances et nos compétences pour dessiner une sculpture mobile de 7 mètres de haut qui va être effectivement avec des éléments pliés, et là qu'on va devoir théoriser, modéliser en 3D, comprendre, analyser, juste parce que ça doit bouger avec le vent et qu'il y a des contraintes physiques qui ne permettent plus, de, comme on le fait avec le papier, de jouer. Mais tant qu'on garde la liberté, vous savez, c'est un peu comme le tai chi ou en judo, vous voyez, c'est un peu, il faut se laisser porter par les événements, se dire j'ai envie que cette chose soit possible, quelle est telle formulation, et là, je dirais, avec une bonne organisation et une bonne réflexion en amont, tout est possible. Là, on prépare une œuvre pour la ville de Montpellier qui va faire une vingtaine de mètres de haut. Ça va être des grands pliages qui bougent avec le vent. Ça commence. Ou une sculpture pour une résidence. Là, on est dans des pliages de beaucoup plus grande ampleur. Et forcément, ça passe par une intellectualisation du pli. Mais l'idée, c'est avant cet intellect de faire venir quelque chose qui vient de très loin de ce jardin de l'enfance dont on ne sort jamais véritablement, mais dont parfois certains croient avoir perdu la clé.
Et vous aussi, par rapport à ce giganticisme des œuvres, pourquoi avoir un moment passé le pas de se projeter plutôt sur des œuvres énormes que plutôt petites?
Mais déjà, il y avait l'échelle du lieu, forcément. Bon, on aurait pu imaginer de toutes petites choses disséminées, un peu cachées, mais on avait envie de vraiment... En fait, on a une formation, tous les deux, d'architectes, et on aime bien voilà, travailler peut-être sur l'espace, l'architecture du lieu, la géométrie, et en tout cas répondre au lieu dans lequel on expose. Donc déjà, c'était une envie, une occasion formidable aussi de passer à cette échelle gigantesque avec voilà, ces toiles de 6-7 mètres de haut, et on n'a pas un lieu comme ça tous les jours. Donc c'était une super expérience, et on aime aussi se renouveler, les défis, et finalement cette surprise dont Guillaume parlait à travers le pli. Le pli, c'est vrai que c'est un peu comme un jeu d'enfant où on est surpris, on plie, on coupe, on découvre quelque chose, il y a quelque chose du tour de magie. Et c'est cette manière qu'on a aussi de travailler à deux, où c'est dans l'échange, l'un amène quelque chose, l'autre répond, et l'œuvre n'appartient jamais à l'un ou à l'autre. Elle est vraiment née dans cet espace entre deux, et c'est vraiment très riche et possible grâce au pli aussi.
Pas votre premier fait d'armes, quelles ont été aussi ces autres œuvres du passé avec lesquelles vous êtes amusé justement dans l'espace, avec cette grande espace à vous baigner dans un regard enfantin et créateur.
C'est génial, les grands espaces, ça me rappelle l'atelier Jasper à Bruxelles. C'était une fantastique maison des, comment on dit, early modernistes, les premiers architectes du mouvement moderne. Donc, il faut se remettre dans la perspective de Bruxelles avant Le Corbusier, on va dire. Et tout d'un coup, les premières maisons modernes qui...
Parce qu'une maison, c'était l'atelier d'un sculpteur.
Et c'était l'atelier d'un sculpteur. Et donc, du coup, Jean-François Declercq, qui est curateur d'art et une personne vraiment adorable, nous invite à la Villa Jasper et nous donne carte blanche pour occuper tout cet incroyable ancien atelier d'artistes où il y a de nombreuses expositions. Et on a fait une œuvre juste pour le lieu. Alors, il y avait un grand pliage blanc qui était dans un grand volume, qui était très haut, et qui était dans une lumière du nord, parce que les peintres adorent la lumière du nord. Donc, en fait, c'était une œuvre toute blanche et qui était un froissé. Donc, ça, on a plusieurs processus. Il y a le free folding, action folding, cut folding. Et là, c'est vraiment du free folding. C'est-à-dire que pour nous, c'est basé sur quelque chose de très fugace, une intuition. Tac, on plie un truc sans réfléchir et tout est permis. C'est-à-dire que là, on respecte rien, aucune règle topologique. C'est possible, et après on se démerde pour le faire en plus grand avec d'autres techniques, parce qu'on peut toujours plier même une tôle au-delà de certaines limites, mais il y a des limites qui ne sont pas les mêmes. Hein, et là on avait fait ce grand truc comme ça, et c'était tout blanc, et c'était l'ombre et la lumière qui révélaient l'œuvre. Après il y avait une œuvre qui tournait, il y avait une rotonde, donc on avait mis un miroir plié qui tournait, sur un moteur comme ça, avec des sortes d'éléments screen qui étaient pliés aussi. Et là, ça reflétait tout le volume. Et après, il y a un autre espace qui était pauvre, on n'avait rien mis au mur, mais était très long, avec une fenêtre au bout. Et là, on avait déplié une bande, qu'après on avait coupée en petits morceaux. Et là, on a fait ça en miroir, comme ça, ça reflétait le lieu. Des choses et d'autres. Et il y avait aussi notre première installation vidéo où on avait projeté la mer sur un miroir plié. Ça a déformé un peu une espèce d'ambiance un peu intra-utérine. Et c'était ça. Donc on avait vraiment occupé tout le lieu par rapport à l'esprit du lieu. Et c'est vrai que, comme le disait Chloé, cette culture, parce qu'il n'y a pas que les géométries sacrées, il y a les géométries habituelles de l'architecture. Et c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec nos confrères, même si aujourd'hui on ne fait plus du tout d'architecture. C'est justement par respect et compréhension finalement de ce qui se trame souvent derrière l'espace, on peut y insérer une œuvre. Mais ça a été une grande évolution et un grand questionnement pour nous, puisque la manière de se positionner en tant qu'artiste dans une architecture n'est pas celle de l'architecte. C'est vraiment quelque chose qui est à part et paradoxalement qui peut dialoguer avec le lieu, sans forcément complètement en respecter les limites imposées par l'architecture. On peut jouer. Ce qui est intéressant avec tout ce qui est ludique, c'est que finalement, vu qu'il n'y a pas spécialement de fonction, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc c'est intéressant pour nous de venir réagir avec l'espace. Mais certaines de nos œuvres, pour cette raison-là, étaient mobiles, pour que c'était des miroirs mobiles ou des œuvres mobiles qui pouvaient tourner, pour que l'observateur, finalement l'utilisateur, entre guillemets, puisse avoir une relation particulière avec l'œuvre. Et donc les gens disaient, bah, tiens, c'est intéressant, votre œuvre, je l'ai mis dans mon salon, et tous les matins, je me réveille, je vois mon jardin, et c'est génial, parce que ça a ouvert une fenêtre. Donc on peut dire qu'il y a ça, et il y a cette notion, paradoxalement, d'aspatialité dans nos œuvres, où quand on fait un pliage, contrairement à quand on fait un dessin, il n'y a pas de haut, de gauche, de droite. Bon, c'est la sélection, parce que tous les pliages ne sont pas séduisants, et une attention à quelque chose qui... on trouve toujours un sens. Un haut, un bas. Alors des fois, certaines œuvres, certains pliages, ils peuvent être intéressants dans plusieurs sens, mais je crois que ça fait partie des critères esthétiques collectifs dans la psyché humaine. On arrive à se mettre d'accord sur un sens. Parce que les gens disent « Ah oui, les goûts, les couleurs ne se discutent pas ». C'est complètement faux. En fait, par exemple, dans ce lieu, dans une chapelle, surtout dans un lieu à une architecture forte, si vous dites à plusieurs personnes de trouver le centre ou d'écouter d'une certaine manière leur corps et leur ressenti par rapport au lieu, il y aura des consensus. Et il y a des consensus, c'est pour ça qu'il y a des grands maîtres en peinture, en sculpture, en architecture. Et donc, en fait, c'est important d'avoir conscience que on a tous un consensus esthétique, même si toutes les valeurs esthétiques ne sont pas partagées, et même qu'il y a des choses parfois qui peuvent nous déplaire ou nous choquer. On a une culture collective et commune, et c'est ça qui nous relie les uns et les autres dans l'espace de l'œuvre. Et parfois qui nous relie à des gens très éloignés ou qui sont déjà morts, et peut-être... C'est un peu ça aussi les portes du temps, c'est que derrière une œuvre, il y a plein d'histoires.
Oui, on a l'impression en vous écoutant que, en tout cas, l'art du pli est infini. C'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi aussi. C'est parce qu'en fait, on peut tout le temps constamment plier. Il n'y a jamais de fin à un pli.
Non, mais en fait, c'est l'art qui est infini. Le pli, c'est juste un prétexte pour effleurer quelque chose qui finalement dépasse le cadre de cette discussion. On ne dira rien.
Dernière question, alors, pour clore cet entretien sur l'art du pli, peut-être une référence, peut-être un poème.
Ah ouais, ouais.
Référence textuelle.
Les notes sur la mélodie des choses en allemand. Vas-y, Chloé. Ouais, ouais, c'était une blague. Mais c'est vrai que j'aime.
Il avait appris pour une exposition à Berlin.
Ouais, à Berlin. Mais j'ai pas osé le dire parce que j'ai eu peur que mon accent français soit si terrible qu'il ne m'aurait pas compris. Mais en fait, ouais, les notes sur la mélodie des choses de Rilke, c'est une très bonne manière de commencer un travail un peu profond et une expo. Ah oui, alors sinon, on pourrait dire. Alors, une autre référence, ça vient d'un poème de Rumi, où il explique qu'il est le serviteur de la lune. Cette lune, c'est un peu son cœur qui lui parle et qui l'exhorte à ne rien dire. Une lune sur le chemin du cœur fut trouvée. Sur le chemin du cœur, comme il est doux de voyager. Ne dis rien.
Le vernissage se fait le samedi 18 avril et donc l'exposition pourra être visitée dès le lendemain et jusqu'au 21 juin.